Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique, ce sont les promesses de l'aube et je suis en compagnie de nos invités. Et bienvenue à tous les deux, vous êtes tous les deux, Nord et Ibtissam, représentants, je ne sais pas comment on doit dire, en tout cas porte-parole de l'Union des sans-papiers pour la régularisation, l'USPR, donc, qui est en grève, qui a débuté une grève de la faim il y a plus de 20 jours maintenant et qui rassemble donc des sans-papiers qui occupent à la fois l'église du Béguinage à Bruxelles, mais aussi les certains bâtiments de l'ULB et de la VUB. Et donc, c'est pour nous parler de cette situation dramatique et des revendications que l'Union des sans-papiers pour la régularisation peut avoir. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment vous en êtes venu à mener cette action aussi radicale, hein, et en venir à ça, quelles sont vos revendications, les enjeux, comment vous avez débuté cela?
Ok, pour commencer, je me présente. Merci pour votre invitation déjà. Je suis Nord, l'un des porte-parole de l'ESPR. En fait, pour faire une petite histoire de mouvement, l'ESPR s'était créé en janvier, moitié de janvier, vers le 15, le 16. Et elles ont en fait commencé à occuper le Béguinage. C'était le 31 janvier, je crois. Et après une semaine, ils étaient à la VUB, enfin à la ULB. Et après 4-5 jours, ils ont occupé encore la VUB. Et la dernière occupation, c'est le CIO, c'est l'ancien caserne. En fait, au début, on a commencé par faire des manifestations pour en fait monter notre voix et parler avec pour ouvrir un canal de dialogue avec le gouvernement, parce que en fait, il y a des gens parmi nous qui sont ici, ils habitent ici, ça fait 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Il y en a même certains cas, heureusement que c'est rare, ça arrive jusqu'à 28 ans, le plus ancien. Et voilà, c'était pour ouvrir des canaux avec le gouvernement pour trouver une solution. Parce que si on écoute dernièrement les médias, il y a surtout M. Sami Mehdi qui parle de la solution qu'il a trouvée, en fait, c'est pour renvoyer les gens chez eux. Mais logiquement, c'est impossible parce que les gens, ils ont habité ici, ça fait 20 ans, 15 ans. Ils ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'ils n'ont aucun lien, à part que c'est leur pays de natal. À part ça, ils n'ont aucun lien à leur pays. Je parle de moi-même, tous mes camarades, même Tissem qui est à côté de moi. Alors, la solution facile, politiquement, c'est ça. Mais s'il veut vraiment faire une solution, c'est en fait de voir qu'est-ce qu'ils demandent ces gens. Et ce qu'on demande, ce n'est pas quelque chose de très grand, de très compliqué. On demande une régularisation pour tous les gens. Ça, c'était en fait, c'est l'ESPR, ça, je commence un petit peu à l'avance. L'ESPR, ils ont fait une demande de changement de loi. On a fait un changement de loi, un cahier de revendication qu'on a déposé à la Chambre et pour faire un changement de loi parce qu'en fait, ce que nous dérange avec la loi de la migration, de la régularisation générale, c'est en fait, on demande seulement d'expliquer les critères qui sont basés pour régulariser ou pas régulariser quelqu'un. C'est tout ce qu'on demande. Seulement clarifier c'est quoi ces cas. Pourquoi vous donnez les papiers à certains et pourquoi vous refusez. Et jusqu'à maintenant, il refuse de donner un prétexte comme quoi il garde ça pour lui parce qu'il y a des cas humanitaires. C'est absurde quand même parce que s'il veut faire ça, ok, il dit, moi j'ai des cas humanitaires. Par exemple, si je trouve tel cas, tel cas, tel cas, je vais régulariser. Si je ne trouve pas, je ne régularise pas. Même ça, il ne veut pas le voir parce qu'il veut garder pour lui. Ce qui est un petit peu absurde en général.
Et donc, ça vous met aussi dans une situation de totale insécurité et vous ne savez pas du tout sur quelle base juridique ou si vous rentrez chacun dans le cadre de régularisation ou pas.
C'est
un flou absolu pour vous.
Pas pour nous, même pour les avocats, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, il y a des cas parmi nous qu'ils ont la même situation, ils ont la même ancienneté, la même situation. Quasi les mêmes dossiers, dans le même avocat, ils ont constitué le même dossier, la même ancienneté et tout. Il y en a un cas que je connais personnellement qui a pris une carte de 5 ans, de 1 an, je crois. un nom si je m'abuse, et l'autre, elle a été refusée. Et c'était le même cas. Soit elle doit refuser pour les deux, soit elle accepte pour les deux. Ce qu'on trouve ça, c'est absurde, parce que ça n'a pas de sens et c'est de n'importe quoi. Tout ça parce que, voilà, elles ne veulent pas éclaircir, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas éclaircir les lois. On ne demande pas un changement de loi. Mais après qu'on a demandé ça, on s'est rencontré avec M. Samir Mehdi. On a parlé avec lui, il nous a recevés à leur cabinet, un des trois de mes camarades là-bas. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Alors les occupants, deux des trois occupations, ils ont décidé d'entamer une grève de faim. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Normalement, on voulait juste ouvrir un canal, trouver une solution, pacifiquement bien sûr. Même on avait fait quelques manifestations bien avant, c'était pacifique. Il n'y avait rien. On perd de temps, quoi. C'est une perte de temps totale. C'est pour ça que les occupants, ils ont dit « Ok, maintenant, on a marre. On va commencer la grève de faim. On va voir qu'est-ce qui peut arriver. » Voilà, c'est pour ça que la grève de faim a commencé.
Et justement, avant, depuis le début de l'année, il me semble qu'il y avait une pétition aussi qui circulait, enfin un soutien de la population qui essayait justement de
oui, c'est bien. Il y avait We Are Belgium, c'est ça, c'était We Are Belgium. C'était une pétition pour voir, enfin, pour signer. Je crois jusqu'à maintenant, ils ont récolté plus que 30 000 signatures. Et c'est là qu'on a déposé le cahier de revendication. Mais ça va traîner. Dès une loi, ça ne passe pas. Il faut des années pour que ça passe. Et maintenant, avec la grève de faim qui a commencé, les gens ils disent « Ok, le cahier de revendication, c'est bien. Changement de la loi, c'est bien. Mais maintenant, il faut trouver la solution pour les gens qui sont en train de mourir. » Parce qu'on a des cas, on est au 25e jour exactement aujourd'hui de la grève de la faim. Et il y a vraiment des cas qui sont très, très, très graves. Parce que, voilà, tout simplement, parce que les gens, ils disent « Ok, moi, je suis en bonne santé, je fais la grève de faim. » C'était le cas pour tout le monde. Au début, on croyait au moins ça. Mais après une semaine, déjà, ça commence à tomber. Les gens commencent à tomber. On trouvait ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'une semaine, ok, tu peux être faible et peux avoir un peu de maux de tête et tout, mais pas les gens tombent. Mais quand ils ont parti à l'hôpital, ils ont constaté qu'en fait, ils ont des problèmes médicaux. Et tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas été poursuivis médicalement. Ils n'avaient pas un poursuivi médical, quoi. Mm-hmm. Même avec la carte médicale que le CPS a donnée pour les gens, parce que c'est la seule chose qu'on a le droit ici en Belgique, heureusement. Mais les gens, ils ont la phobie de tout ce qui est administratif, tout ce qui est bureau, en fait. Alors même le médecin, ils ne vont pas jamais pour faire un check-up, pour faire soigner les dents, des trucs basiques, ça, ils ne vont pas. Sauf quand ils sont très, très, très mal. Là, ils vont à l'hôpital. Mm-hmm. Et c'est pour ça que commencent à tomber les gens commencent à tomber. On a vu qu'il y a des cas très, très graves sans le savoir, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça, maintenant, à la VEB, en tout cas, il y avait deux cas, presque, c'est des crises cardiaques, carrément. Et il y avait, à la ULB, des crises cardiaques aussi, je ne me souviens pas les termes exactement, mais en tout cas, il y en a 6 à la EULB et la VEB qui c'est très, très, très grave. Mmh. Et on a un type qui s'est hospitalisé 6 jours carrément à l'église Biguinage. Il y en a, je crois, une dizaine qui c'est vraiment grave. Et ça, je ne parle pas des gens diabétiques, les gens malades, les gens vieux, ça, je ne parle même pas d'eux. Ça, je parle des gens jeunes, en bonne santé, normalement.
Mais du coup, est-ce que effectivement, on a vu aussi que pendant la pandémie, avec le confinement, avec le tout au Covid, il y a beaucoup de gens qui soient déjà des gens avec papier qui n'ont pas été chez le médecin parce que on leur disait si vous n'avez pas le Covid, surtout restez chez vous. Donc j'imagine que pour les personnes sans papier, c'était encore plus difficile. C'était doublement difficile quand on avait des soucis. Et donc, vous êtes quand même soutenu. Il y a quand même un encadrement, un soutien médical qui vous soutient dans cette grève de la faim et qui veille à ce qu'il n'y ait pas de cas trop graves, des associations qui vous soutiennent.
Oui, effectivement, il y a le Croix-Rouge. Enfin, après 10e jour, je crois, qu'il y a le médecin de monde. Qu'ils ont contacté le Croix-Rouge, qu'ils ont commencé à venir de faire des contrôles réguliers pour voir la santé des gens, s'il y a des gens graves ou pas, pour qu'on appelle l'ambulance. Sinon, il y a des bénévoles, des médecins bénévoles qui viennent dans les trois occupations pour faire des check-up pour tout le monde et tout. Et malgré ça, allez, chaque fois, on appelle des ambulances, même les ambulanciers, on en a marre de nous, on nous a dit ça clairement, quoi. Parce que dans un de ces jours, je me rappelle... je crois, dans une nuit, lors de 5-6 heures, on a appelé, je crois, l'ambulance. Il y avait une trentaine de personnes seulement à la ULB. Seulement à la ULB. Et la ULB, on n'est pas grand. On est à 140, 130 personnes, quelque chose comme ça. Mmh. À l'église Béguina, c'est encore pire parce que c'est le double des gens là-bas. Mmh. Alors, même les ambulanciers commencent à avoir marre. Et je le comprends parce que, allez, les gens, ils vont là-bas. Elle le prend, c'était des cas très très graves, elle le prend jusque là-bas, et quand on lui fait le sérum, je lui donne à manger parce qu'il faut qu'il mange, bah, elle refuse, parce qu'ils lui disent, non, moi j'ai fait la grève de faim, pas parce que quand je vais à l'hôpital, que tu me donnes à manger. Ça c'est un truc, ça n'a rien à voir avec vous, c'est avec l'État. Et les gens, ils ont vraiment pris des risques énormes pour avoir un pot de papier qui ne signifie rien pour finir. Ça ne signifie vraiment rien, parce que les gens, ils habitent ici. Elle se comporte comme des Belges, elle vit ici, sont intégrés et tout. Bien sûr, pas tout le monde, mais on va dire la plupart. Je connais des gens, la plupart sont des Belges. C'est absurde, c'est absurde le système et l'État, ce qu'il veut faire, de nier ces gens-là, parce que comme vous avez mentionné dans le Covid, c'est nous, t'es le premier victime, c'était nous. Parce que même le test, on n'avait pas le droit, parce que pour passer un test, il faut le numéro national. Et on n'avait pas le droit de faire le test. Alors, on était le premier victime de Covid et on a certains gens dont le Covid, ils sont en train de travailler, de fabriquer des masques au début, de travailler chez les gens pour garder le babysitting comme les femmes, les nettoyages et tout, parce que ça, c'est pas arrêté. Et on était les premiers à exposer, on n'avait pas de couverture, même le test, il nous a refusé. Mais après que tout le monde commence maintenant le vaccin et tout, que tout le monde était vacciné, ils nous proposent d'être vaccinés. Ça n'a pas de sens. La réponse était, ok, vous nous donnez le numéro national pour être vacciné, tout simplement. Parce que c'est vous que vous avez commencé avec le numéro national. Ce n'est pas nous qui a dit ça.
Et justement, Tissem, vous évoquiez la question des femmes. Est-ce que, d'abord, j'imagine qu'il y a aussi des femmes qui sont en grève de la faim.
Bien sûr, oui. Premièrement, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, pour l'écoute. Merci. Donc, Donc moi en tant que femme, je vais vous parler juste sur les femmes, plutôt les grévistes qui passent par des moments difficiles sur tous les niveaux, que ce soit leur santé, les effets secondaires de la grève de la faim, donc la fatigue totale, les problèmes intestinaux, rénaux et leur état psychique. Donc qui se détériorer jour après jour, alors que la majorité d'eux ont passé et ont subi de la violence, la discrimination, la maltraitance, l'harcèlement sexuel même, et ainsi de suite. Donc, je me demande pourquoi ne pas les régulariser. Donc, voilà, et vivre en dignité, donc... Voilà quoi.
Oui, parce que ce que vous dites aussi, et ce que les associations disent depuis des années, c'est que les sans-papiers, comme vous dites, c'est pas des gens qui sont juste ici. En général, c'est des personnes qui sont intégrées. Les enfants vont à l'école.
Exactement.
Ça fait quelques années. Enfin là, dire qu'il y a une personne, ça fait 28 ans qu'elle est en Belgique, elle est toujours pas régularisée. Ouais. Et surtout, les personnes participent aussi dans des secteurs clés de la société.
On contribue dans la société belge, oui. Normalement, oui.
Qu'est-ce qui bloque, d'après vous, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les preuves du fait que vous êtes utile, enfin qu'il y a cette utilité, que vous êtes intégré, pourquoi il y a toujours ce refus, hein?
On ne sait pas, donc la loi est floue, donc même les avocats, comme mon camarade vous a dit, ils n'arrivent pas à déchiffrer la loi, donc quand on pose nos dossiers et tout, on attend, et un refus, quitter le territoire, après c'est rien. Quand on demande pourquoi, ils disent « on ne sait pas ». C'est comme ça, la loi c'est flou. Même si on est intégré, même si on a des enfants qui se scolarisent ici, on contribue dans la société belge, on est des travailleurs, travailleuses déjà. Donc, mais on ne sait pas pourquoi. À vrai dire, on ne sait pas pourquoi.
Et la dernière fois, en fait, on avait une rencontre avec monsieur le secrétaire d'État. On a parlé de ce détail-là. Et elle m'a sorti un chiffre que l'année passée, par exemple, elle a régularisé 3000 personnes. J'étais OK, ça c'est bien, mais sur combien de cas ? Parce que 3000 personnes, c'est parce qu'eux, ils sortent déjà un chiffre de 150 000 personnes 50, sans papier.
150 000.
Ouais, parce que si tu sors 3000 dans les 150 000, qui, c'est eux qui disent ça, mais je ne croyais pas qu'il y a 150 000 autant de gens comme ça sans papier ici en Belgique en tout cas.
Vous pensez qu'il y en a moins en fait ?
Beaucoup moins, ah, beaucoup oui, okay. moins. Mais si il y en a 3000, ça veut dire c'est quoi, hein, 10% même pas.
Oui, oui.
Alors ça n'a pas de sens. Et elle nous a dit ça, elle répète ça dans les médias. Si c'est vrai, c'est pas quelque chose. Hein. Il faut pas le dire carrément. Il faut le passer dessus quoi. Il faut même pas le mentionner parce que c'est pas grand monde. Mais la solution en fait, il faut qu'elle trouve une solution avec les gens d'ici. Les gens ils habitent ici. Ils peuvent pas renvoyer les gens chez eux. Ça ils peuvent pas. Même s'il fait, je sais pas moi, demain il y a toute la police qui va ramener tous les sans-papiers, elle va les renvoyer. Le lendemain ils vont être encore le double et le triple. Parce que ça c'est pas une solution. Ça, c'est seulement, on est tombé dans un calcul politique. Et voilà, c'est nous les victimes, voilà. Je suis désolé, je fais aussi la gaffe de fin, alors les mots commencent à m'échapper ouais. un petit peu. On est des victimes de tout ce qui est politique, le rouage politique, hein, parce qu'il y a des calculs, il ne faut pas que je donne, parce qu'il y a l'extrême droite qui ne peut pas nous donner son voix. Et voilà, on est rentré dans ce calcul qu'on n'a rien à voir avec. Hein. Tout simplement, c'est comme ça. C'est pour ça que ce reste la loi des critères clairs. Elle ne voulait pas éclaircir justement ces critères. Pour qu'il joue avec les voix des gens et tout. Comme ça, elle va donner quand elle veut, elle va apprendre quand elle veut, tout simplement.
Et justement, cette grève de la faim, ben, ça a suscité quand même un intérêt aussi médiatique, donc une visibilisation de votre combat, de votre réalité. Est-ce que vous avez la sensation que ça fait un peu quand même bouger quelque chose, enfin j'espère.
J'espère aussi. En tout cas, Le point positif jusqu'à maintenant, c'est que les médias, je ne parle pas des grands médias bien sûr, parce que, ok, ils ont fait un petit article, ils ont passé dessus. Toute la presse, quasi toute la presse, ils ont parlé de ça. En plus, maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est les social media, c'est le Facebook, c'est Instagram et Twitter. Et ça bouge à fond, heureusement, pour l'instant. Mais je trouve vraiment bizarre et dommage que les grands médias, ils ne bougent pas vraiment. Ok, ils font de temps en temps un article, il y a un grève de faim quelque part. Et c'est tout, c'est un info donc parmi les infos. Mais normalement, ça doit être, pas, je ne vais pas dire central, mais ça doit être quand même quelque chose. Les gens qui font la grève de faim en 2021 en Belgique, en Europe, pour avoir un bout de papier qui mérite, selon moi en tout cas, ils méritent ça, c'est on ne demande pas quelque chose d'impossible, quoi. On ne demande pas de la charité, on demande une carte pour aller travailler dignement. Parce que maintenant, les gens, que le gouvernement veut ou pas, ils travaillent déjà. Mais au lieu d'apprendre un salaire normal, un SMIC normal de 1400 ou 1300, ils sont en train de prendre entre 500 et 800 euros maximum. Ils sont vraiment heureux, le patron il est sympa. En plus de ça, l'État il gagne pas avec, parce qu'il paye, c'est en noir, il paye pas les impôts. En plus, il y a, en fait, c'est pas de travail en fait, c'est de l'esclavage tout simplement. C'est de l'esclavage.
L'exploitation.
C'est de l'exploitation. C'est rarement les patrons que tu trouves que c'est un peu honnête. Qu'il te paye déjà les 800 euros, qui c'est au-dessus du moyen déjà. Ouais. Et il traite normalement. Et ça, on ne parle pas des femmes. Parce que si une femme travaille chez des patrons comme ça, à part l'argent, à part l'exploitation, il y a l'harcèlement. Ouais. Malheureusement. Et tout ça, c'est à cause du système. Ce n'est pas à cause de son papier. Parce que maintenant, s'il y a par exemple un harcèlement contre une fille, une travailleuse sans papier, elle n'ose pas aller prendre plainte. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus ça, mais on ne les voit pas. Nous, on les voit, mais allez, l'opinion publique ne le voit pas. C'est dommage. Mais on sait très bien que le gouvernement et l'État, ils savent le système, ils savent comment ça marche les trucs. Ils savent que les gens là-bas, ils travaillent au noir. Ils savent que ce patron, il ne paye pas les droits. Mais c'est le patronat, je ne sais pas c'est quoi leur deal, mais c'est bizarre. C'est trop, trop bizarre. Encore plus bizarre, comme j'ai dit au début, on est en Europe, dans un pays démocratique, 2021. C'est très bizarre. On a quitté notre pays d'origine à cause de ça, pour qu'on trouve ça ici. Et c'est encore plus flag.
Et justement, tout à l'heure, vous évoquiez la question des femmes. Il y a effectivement beaucoup de femmes qui travaillent comme
plutôt à l'intérieur des maisons aussi, oui. Comme garde d'enfants.
Garde d'enfants, nettoyage, des nounous, donc oui. Voilà.
Et tous ces travaux-là, est-ce qu'ils ont été mis en danger justement avec le confinement? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu
leur travail? Exactement, beaucoup de femmes ont perdu leur travail. Voilà, c'était vraiment... terrible leur situation, c'était vraiment... Et en parallèle, ils ont des charges, des loyers, des enfants à scolariser, donc c'était vraiment médiocre.
Oui, parce que en vivant ici, vous participez activement à la consommation, on va dire, vous payez votre ouais. loyer, vous payez votre alimentation, ouais. vous allez à l'école, donc vous participez... Et comme vous disiez, en obligeant les sans-papiers à travailler, à être dans la clandestinité, ça, c'est, comme vous l'évoquiez, c'est un manque à gagner aussi pour l'État, pour le système de la sécurité sociale.
C'est un cercle vicieux totalement incohérent aussi.
Ouais.
C'est ça qui est vraiment très bizarre, parce qu'ils savent très bien que les gens, s'ils parlent de 150 000 personnes, bah, au moins,
vous avez 50% de femmes.
Oui, 50% de
plus
femmes.
Plus ou moins.
En plus, on a 120 000 personnes qui travaillent en black. Si on fait le calcul, on est plus à 15 millions par an, mm-hmm. minimum, pour l'État, je parle pour l'État. Pourquoi elles ne font pas ça? Mais elles seront là. Parce que la solution qu'ils trouvent, le monsieur secrétaire d'État, qu'ils trouvent qu'il faut renvoyer chez eux, et il y aura un suivi, et on va vous trouver du travail chez vous, dans votre pays d'origine, ça n'a pas de sens. Et la solution qu'ils disent autre, elle m'a dit, ouais, mais j'ai vu le cahier de revendication, je vois que vous avez mis les apatrites, les parents des enfants scolarisés avec une carte de séjour, et je ne sais pas quoi, la troisième option. C'est ça, ils ne doivent même pas faire une demande, ils doivent être régularisés directement. Ben, ouais. Normalement, c'est une loi, ils ne doivent même pas passer par là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ils ne sortent pas quelque chose de nouveau, quoi. Ça doit être déjà fait, ça fait des années avant. OK, elle avait l'amabilité de le voir et de la faire, c'est bien, mais ça doit être déjà fait avant. Il ne faut pas que ça compte comme elle a fait quelque chose. Normalement, c'est des trucs basiques, quoi. On ne parle même pas de ça. On ne doit même pas parler de ça. Mais lui, quand il parle, on dirait qu'il a fait quelque chose. Non, c'est des trucs basiques, c'est des trucs qui doivent être faits, ça fait des années avant. On ne doit même pas parler de ça. Les réfugiés aussi, on doit même parler de ça. Parce qu'une fois que tu prouves que votre pays est en guerre, tu ne dois même pas faire une demande. Tu dois attendre 8-9 ans pour avoir une réponse négative en plus. Tout ça, ça doit être fait. Ça doit être fait. Et je voulais évoquer quelque chose d'autre, parce que je suis très, très activement maintenant tout ce qui est média pour lui. Elle évoque comme quoi, si par exemple, il y a quelqu'un qui avait un quitté territoire et il a resté 10 ans, 15 ans, ça ne lui donne pas une légitimité pour qu'il demande le papier pour l'avoir, en fait. Oui, je suis d'accord avec vous, si vous avez donné le quitté territoire directement. Parce que le problème qu'on reçoit le quitté territoire, ça vient souvent après 2-3 ans de clandestinité. Une fois que tu l'as, le système juridique, il te demande, tu as le droit de faire un recours, ça peut aller jusqu'à 4-5 ans. Si on fait le calcul, on est déjà à 10 ans. Légalement, hein, parce qu'on a fait le recours, on a fait ça, légalement, on est à 10 ans. Après, il dit, ouais, mais ça ne veut pas dire que vous avez resté 10 ans ici, ça vous donne. Non, ça nous donne le droit, monsieur. C'est comme ça que ça doit être, parce que tout ça, c'est légal. On ne parle pas des gens qu'ils n'ont jamais introduits ici, je parle des trucs de cadre juridique. Ça peut traîner jusqu'à 10 ans, tellement qu'il y a d'attente et tellement que l'office d'étranger, ou je ne sais pas qui, je crois que c'est l'office d'étranger, parce qu'ils n'ont pas de ressources ou parce qu'ils traînent pour traiter les dossiers. Un dossier, ça peut aller jusqu'à 10 ans pour avoir une réponse. Une fois que tu as une réponse, tu peux faire un deuxième recours. On est toujours dans l'égalité, dans la procédure, mais ça traîne. Et après 10-15 ans, il vous dit, ouais, mais il ne faut pas que vous restiez ici une fois que vous avez quitté le territoire. Mais non, parce que j'avais un droit légal de faire un recours. C'est des trucs, c'est des bêtes trucs qu'ils disent dans les médias et tout, mais c'est légal. Jusqu'à maintenant, on parle légalement. Hein. Mais voilà, ça nous donne l'éligibilité après. Parce qu'entre-temps, moi, je suis ici, j'avais une famille ici, je travaille ici, je contribue à la société ici, je paye les TVA, je paye tout. Hein. Même maintenant, même les gens, la plupart des gens qui sont très, très anciens, elles n'ont aucun contact avec leur pays d'origine, tout simplement parce que leurs amis sont ici, leur famille peut-être ici, peut-être elles sont mariées avec des enfants ici. Alors, elles n'ont aucun contact. Hein. OK, c'est leur pays natal et ça s'arrête là, par le nom.
Oui, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont fui leur pays pour des raisons politiques,
oui, ça.
De persécution.
Oui, ça, il y en a beaucoup aussi. On n'a pas rentré dans ce cas, mais il y en a beaucoup aussi. Mais le problème, si on prend un pays qui a une guerre, si les gens viennent ici, ils demandent un asile politique, elle ne le prend pas. Alors ces gens-là, on ne doit même pas parler d'eux, elles vont d'office pas prendre par défaut. Parce que c'est pour ça que je dis, la loi, il y a beaucoup de failles dans la loi. Et ça, c'est clair pour tout le monde, pour les avocats, même pour nous qui ne connaissons rien, soi-disant, dans la loi, mais on voit qu'il y a des failles. Mais eux, s'ils ne voient pas ou s'ils le font exprès, ça, c'est autre chose.
Et comment ça se passe là? Ben, vous évoquiez le fait que vous aviez occupé l'église du Béguinage depuis le début de l'année, puis l'ULB, la VUB. Quels sont les besoins aussi? Comment vous vous organisez entre vous? Est-ce qu'il y a des assemblées, des choses comme ça pour justement comment vous organisez pour mener votre combat
Pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de bénévoles et de soutien, comité de soutien que je remercie de là.
Merci à eux.
Parce qu'en fait, ils nous aident beaucoup, que ce soit tout ce qui est matériel, logistique, même juridique des fois. Parce que pour l'instant, maintenant, c'est facile. Ça devient, on a besoin de l'eau, de sucre et de sel. Avant, c'était plus, les gens ils mangeaient et tout, avant qu'on commence la grève de faim. Maintenant, c'est très simple, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'est tout. Et ça, il y a les soutiens qui nous ramènent, il y a certains bénévoles qui nous ramènent, il y a la commune d'Ixelles, le bourgmestre, monsieur Tekeles, je crois, s'appelle, il nous ramène ça, pour la VEB, la ULB en tout cas. L'église du Béguinage, il y a beaucoup de bénévoles qui ramènent, je crois la Croix-Rouge, ils ramènent pour eux, parce que là-bas, il y a beaucoup de monde, c'est le double de nous. Alors, ça va, pour l'instant, ça se passe, c'est bien organisé pour l'instant. Et voilà, espérons que ça ne va pas durer, parce que le problème, enfin, pas le problème, mais c'est un problème en même temps, c'est que les gens, ils sont déterminés. Ils disent non, non, on ne sort pas s'il n'y a pas de solution, en tout cas pour nous, pour les grévistes. On ne sort pas de là. Et les gens, il y a une femme, elle a failli mourir, elle était diabétique. Et on lui dit, OK, vous mangez, vous pouvez manger, ce n'est pas grave, c'est pas, on va vous mettre dehors, même si on fait la grève de faim, vous pouvez manger. Elle a refusé. Et après, je crois, 2 jours ou 3 jours, elle a mis l'insuline. Et elle avait une choc ou un truc comme ça thermique, hein. On a appelé le médecin. Le médecin, il a dit, si vous foutez, il a failli mourir. Ils l'ont pris en catastrophe et l'ont pris à l'hôpital. Voilà. Même les gens malades, ils sont prêts à aller vraiment, vraiment très loin pour ça. Mm. C'est dommage de le dire parce que, la santé, avec carte, sans carte, l'argent ou quoi, il n'y a rien qui remplace la santé. Mais les gens, tellement qu'ils sont morts, tellement qu'ils se sont désespérés, ils sont arrivés à un point de... on ne va pas dire non-retour, mais ils sont prêts à aller là, quoi.
Et vous êtes combien là pour l'instant en grève de la faim?
Pardon?
Vous êtes combien en grève de la faim?
Il y en a dans presque plus ou moins 500.
Plus ou moins 500.
Dans les 3 occupations.
Ok. Mais il y a d'autres gens qui sont là, qui ne sont pas en grève de la faim, qui sont dans l'occupation.
Mais maintenant, on est devenu obligé pour les gens malades, on se croit les diabétiques et tout. Oui. S'ils font la grève de la faim, on va le mettre dehors.
Ok.
Ça, alors on l'oblige qu'ils mangent, ils ne font pas ça parce qu'ils disent non, on veut faire la solidarité et tout. Je dis ouais, c'est bien la solidarité, mais pas jusque là. Quelqu'un est malade, il ne peut pas faire, il ne peut pas faire.
Oui.
Mais allez, on va dire, on est plus ou moins 500. Chaque occupation, on va dire, je ne sais pas les nombres exacts, mais on va dire une centaine dans les 3.
Mm-hmm.
Quand je dis ils ne font pas la grève de la faim, ça veut dire qu'ils mangent, mais allez, ils ne mangent pas normalement. Hein. Ils mangent 3-4 dattes par jour, quelques sucres pour monter le sucre. S'ils voient que ça ne va pas, ils mangent un petit biscuit, un truc comme ça. Tout le monde est en train de perdre à poids, mais d'un rythme effrayant. Mmh. Effrayant.
Et quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a il y a une marche, je pense, une assemblée vent. Aussi
il y a demain,
ces prochains jours?
Oui, il y a demain une conférence de presse à l'église Béguinage. Vendredi, assemblée générale, ça c'est pour les soutiens. Pour tout le monde qui nous écoute, il n'est pas encore soutenu, veut savoir, veut comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande et tout.
N'hésitez pas à nous contacter.
Ça. ça sera à la ULB, je crois, 7h.
Ouais.
À 7h à la ULB, le campus de Solbosch.
7h du soir.
7h du soir, bien sûr. Parce que le matin, il n'y a personne qui... Même nous, on est en train de dormir. Et dimanche, il y a la marche pour la régularisation.
Et ça, ça aura lieu à quelle heure et ça part d'où?
Les détails, deux petites secondes, je vous donne les détails exactement. Okay.
Et donc, pendant que vous cherchez la conférence de presse, demain, elle est organisée par vous ou elle est soutenue par d'autres organisations qui soutiennent justement la campagne de régularisation, enfin la demande de campagne de régularisation?
En fait, la conférence de presse de demain, c'est nous qui organisons ça, mais avec bien sûr le soutien de... Il y a plusieurs soutiens, parmi eux, il y a le... on va pas dire les noms, comme ça, personne, si j'oublie quelqu'un, il sera personne qui sera blessé. Mais en fait, on a des soutiens vraiment formidables. Et ça, on va revenir après, parce que j'ai pas les noms de tout le monde, comme ça, il y a personne qui va vexer, je vais noter notre, parler sur tout le monde. Mais ça sera toujours avec l'aide de certaines organisations, certains syndicats, voire syndicats et quelques activistes. Et comme j'ai dit, demain, il y a le conférence de presse au Biguinage à 7h, c'est ça? Ouais, 15h. Et la marche, c'est le dimanche, et ça sera dans l'occupation ULB et la VEB. Et ça sera vers midi.
Ok.
À 10h, 2h30, désolé.
Et c'est au départ de la VEB ou c'est au départ du Béguinage?
Ça sera en fait une rassemblée générale à Mont des Arts, près de Gare Centrale, et vers 10h30 jusqu'à midi. Et la marche, ça va être 15h le départ de l'église de Béguinage. Et ça va être un parcours de l'église de Béguinage, l'ULB et la VEB.
Ok.
Désolé, la conférence des proches, c'est à 10h.
À 10h,
ouais,
c'est
voilà.
Ça.
Désolé, je mélange toutes les dates.
Jeudi 17 à 10h.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, vous avez dit qu'on pouvait vous soutenir aussi, éventuellement apporter de l'eau et tout ça. Comment on peut... on vient juste sur les lieux de l'occupation ou bien il y a un canal particulier pour pouvoir vous aider ou... Vous êtes juste...
En tout cas, pour l'eau, il faut juste ramener. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien. C'est surtout, ça sera pour le Béguinage, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Pour l'ULB, la VEB, ça, pour l'instant, ça va. Mais si quelqu'un veut aider, ça sera vraiment pour le Béguinage, parce que vraiment, à chaque fois, il tombe en panne de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Du sucre, de sel, c'est tout. Mais le soutien qu'on a besoin vraiment, c'est plus moral pour l'instant. Parce qu'une fois qu'on dépasse la... quatrième, cinquième jour de la grève de la faim, on ne sent plus la faim. Ça va, on s'habitue. Maintenant, ça commence à jouer le moral. Est-ce qu'on va tenir moralement ou pas? Pour l'instant, comme je disais, le soutien, franchement, ils font un travail formidable parce que jusqu'à maintenant, le moral, elle est top, même avec les gens qui tombent et tout. Mais le moral, elle est là parce que maintenant, le plus important, c'est le moral.
On tient le coup.
Voilà, pour l'instant.
Ok, ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici de grand matin, enfin. Et bon courage pour tout.
Merci.
J'espère que votre lutte atteindra ses objectifs et on vous rejoindra ce dimanche pour la marche.
On est bienvenue à tout le monde et on est confiant qu'on va aboutir à quelque chose, même s'il n'y a rien, mais. On est déterminé, comme j'ai dit autrefois.
Merci beaucoup et bon courage en tout cas. Nous, on poursuit ces promesses de l'aube encore quelques minutes. Et...